Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 42e Instant Sport. Alors il a failli, je dis bien, devenir notre spécialiste NBA, ça s'est joué à une quinzaine de points seulement. Laurent Julien, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde. En effet, j'étais le plus près la semaine dernière du choc de NBA, donc j'ai contacté tous mes collègues de la radio qui ont fait profil bas, j'ai noté...
Bref. Voilà. Oui, c'est sûr.
Voilà, on a tous reçu un message. Ouais, c'est qui le patron? Mais bon, il avait quand même pas le bon résultat, donc t'emballe pas. T'étais à 15 points près. Oui. Voilà. Mais bon, c'est bien, c'est bien. C'était le match Golden State San Antonio pour ceux qui nous ont pas suivis la semaine dernière. On va refaire un pronostic d'ailleurs cette semaine. Je sais pas sur quel match, sur quel sport. On va y réfléchir pendant la pause musicale.
Le poney.
Ouais. Championnat de poney en Haute-Lozère. Capitaine du BCM Aurélien Lacasse, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Aurélien, va falloir faire des efforts dans les pronostics NBA, hein, parce qu'on va pas laisser quand même Laurent devenir notre spécialiste.
Hein. Non, ça deviendrait grave s'il se mettait à parler basket. Mais par contre, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des pronostics avec Laurent, je suis complètement à côté de la plaque, donc il doit m'envoyer des mauvaises ondes, parce que je suis complètement à la ramasse à chaque fois.
Ben voilà, ben il faut parier à l'inverse de toi et on va gagner de l'argent.
Exactement, on pourrait faire ça.
Avec Laurent, on a fait ça pendant toute une saison en foot et on s'est gavé avec Patrick. Plein de fric. T'as qu'à te lever, Laurent. Vas-y, t'as qu'à partir. Non, mais n'importe quoi. Même remarque pour notre journée sportive de midi libre, Luc Crespon. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Hein, le basket là. T'étais loin aussi.
J'avais dit plus de 10. Hein.
Plus de 10.
Je crois qu'il faudra écouter parce que les mecs, c'est
plus
des.
De 10. Je crois qu'il y en a. Plus de 10.
Je crois qu'il y en a.
Okay, entre 30, 10 et 15, t'avais dit.
Non, j'ai jamais dit entre 10 et 15.
Non, il a dit.
J'ai dit plus de 10.
Bêtises, il a dit.
Alors, effectivement, 30, c'est beaucoup plus de 10, je suis d'accord.
Alors, notre journaliste sportif à la Lozère Nouvelle, Patrick Biancone, qui est aussi passé totalement à côté de ce pronostic. Salut, Patrick.
Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que Laurent a commencé petitement quand même parce que saison NBA en disant Portland parmi les favoris. Donc là, bon là, c'est déjà que tu es cuit, mais tu vois, tu
ne suis pas cuit parce que Portland non, est les 8 premiers et Portland a encore gagné cette nuit.
Ouais, mais bon, on verra après un peu, ça sera vraiment compliqué pour eux. Donc c'est vrai que tu as commencé un peu petit, mais là, tu es en plein progrès. Il va falloir faire attention maintenant quand tu parles NBA, tu es dans le coup maintenant.
Luc,
on peut d'ores et déjà lancer un pari à Laurent, si Portland est qualifié pour les playoffs et qu'ils arrivent à battre ce qui devrait être le cas.
Cleveland
Golden State, normalement.
Ah, ils
normalement,
sont à l'ouest.
Si on finit 8e.
Oui, c'est ça.
Parce que si on finit 7e, c'est San Antonio, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc s'ils c'est plus jouable.
S'ils arrivent à passer, on fera un pari. On va parier un truc.
Ouais. S'ils passent au moins un tour, on va proposer quelque chose. On va parler tennis aujourd'hui avec une des licenciées les plus prestigieuses du tennis club Mende Cœur de Lozère, Aurore Gaillot. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors je dis une des plus prestigieuses car elle a quand même réussi à me battre, ce qui n'est pas une mince affaire, messieurs, dames, dans un match serré. Hein,
ouais, en jouant de la main gauche. Ouais.
En jouant de la main gauche.
Et le score?
C'était un peu compliqué.
Pour l'honneur de Ludovic, on va pas donner.
Non, on va pas le dire.
Et la main droite attachée dans le dos.
Ouais.
Et,
voilà.
On va peut-être,
pour servir, c'est pas évident.
On va peut-être organiser un match mi-badminton, mi-tennis entre Patrick et Aurore.
Ouais, ça serait pas mal, ouais.
Avec un volant de badminton et des raquettes de tennis sur une table de ping-pong.
Voilà, le tennis, le sport quand j'étais jeune, et puis le badminton, le sport depuis que j'ai plus de 30 ans.
Ah, tu joues au tennis avant?
Ah oui.
T'étais classé?
J'étais classé, j'étais comme Aurore, à peu près au niveau d'Aurore, 15-4, 15-5.
Ah, bon niveau. Et Laurent, toi?
Non, du tout.
Non, jamais.
Voilà. J'ai été demi-finaliste en cadet du championnat de Vaucluse. Et donc pendant un an, j'ai eu des cours particuliers avec les trois autres demi-finalistes. Pendant un an, on avait une fois par semaine un cours avec un prof de la Ligue.
Bon, qui était Ligue Méditerranée. Ou c'est juste que bon.
Non, c'était un programme de détection mis en place par la fédération. Ça concernait toutes les ligues à l'époque, et donc il suffisait d'être dans les quatre premiers pour bénéficier.
Est-ce que vous avez fait un stage en Guadeloupe?
Non.
On n'a pas eu ce dilemme-là. On en parlera tout à l'heure. On parlera de tennis avec l'Open d'Australie qui s'est terminé, celui à Montpellier qui commence ou qui a commencé ce dimanche.
Les qualifications ont commencé. Bon,
alors après, j'ai appris que c'était Grosjean qui s'en occupait maintenant.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais,
parce que Dominguez est décédé. Patrice Dominguez qui s'en occupait. Hein.
Ok. On va parler de vélo aussi, avec une belle phrase du jour. Tu veux que je te la donne, Patrick? Ça m'a fait rêver quand j'ai lu ça ce matin.
C'était pas mon vélo?
Ouais, c'était ça.
C'est celui de mon ami.
Ce n'était pas mon vélo, mais
j'avais un ami.
Celui d'un ami identique au mien. C'est
J'avais un ami, mais bon, il est parti.
Ouais, c'est énorme, on va en parler.
C'est les mécaniciens qui se sont trompés.
Ouais, voilà, on parle bien sûr de l'affaire d'un moteur retrouvé dans la roue d'un vélo. De cyclocross, d'une jeune de 19 ans qui s'est fait attraper, ouais. Qui a dit « c'était pas mon vélo, c'est celui de mon ami ».
Une jeune belge.
Ouais.
Et c'est pas une blague belge.
Et qui a abandonné en plus.
Oui,
sur un nu mécanique. Il n'y a sûrement plus d'essence ou des choses comme ça.
Allez, on commence par les résultats sportifs lausériens. Pas de basket, messieurs, ce week-end. Et comme dit le proverbe du BCM, pas de basket, pas de défaite. Aurélien.
Exactement.
Ça c'est mauvais.
Un week-end de repos, un week-end qui fait plaisir pour la tête, pas de défaite, donc ça permet de se ressourcer, de repartir du bon pied.
Pour lui, que je vais être un peu méchant, mais pour lui ça change rien parce qu'il marque jamais. Ouais. Donc qui joue ou qui joue pas, bon, ça fait toujours 0 points.
Il a gagné lors de l'unique victoire. 4 points, monsieur. Comment le prochain match, c'est ce week-end?
C'est
du coup
samedi à 19h au gymnase Saint-Privat.
Contre
Saint-Gilles.
Ah, un match à la portée.
Ouais.
Ils sont combien, Saint-Gilles? Ils sont
juste un peu au-dessus de nous.
Ils ont 4-5 points. Ils ont 4-5 points, je crois.
Ouais, surtout.
Ils ont 37 points d'avance.
Surtout, ils avaient demandé à décaler le match. Malheureusement, on n'a pas pu accéder à leur demande. Donc, du coup.
Ça va être chaud. Hein.
On ne sait pas trop dans quel effectif.
Ils voulaient le décaler à quelle heure?
Ils voulaient monter dimanche après-midi parce qu'ils avaient peur pour la météo.
Vous avez fait vos Lillois, quoi.
Non. Hein,
comme Lille, qui a refusé de reporter le match, mais ils ont raison. Hein.
Mais ils ont raison, parce qu'ils ont joué 7 matchs en 19 jours. Bon, donc si Lille peut le faire, Paris peut encore plus le faire. Hein.
Ouais, surtout quand tu as 40 points d'avance, tu peux mettre ton équipe bis.
Exactement.
Ouais, mais après, je trouve que c'est toujours le débat. Il n'y a qu'en France, en fait, que les représentants en Ligue des Champions, et je ne parle pas que pour Paris, hein, c'est le cas pour Lyon ou Marseille quand ils y ont été, sont finalement pas avantagés. Alors, pas nécessairement les avantagés, mais dans tous les autres championnats, on essaye de les aménager un peu, de les ménager pour représenter. Là, en France, on n'en a qu'un. On rame à l'indice UEFA. Après, il ne faudra pas que les autres clubs viennent pleurer si le deuxième du championnat est qualifié pour l'Europa League et pas pour la Ligue des Champions. Donc, je trouve ça un peu dommage.
Tu nous as mis le blues là, le
club. Ouais, j'ai envie de chialer.
T'as pas un mouchoir,
oui.
Quoi.
Oui, j'ai pas vraiment l'impression que par exemple le Bayern soit avantagé dans son calendrier ou que le Real Madrid ou Barcelone aient un calendrier aménagé au moment des matchs du championnat espagnol ou allemand.
Quand ils le demandent, on leur répond favorablement. Après, ils le demandent pas tout le temps. Mais généralement, quand ils le demandent...
Quand tu vois qu'en Espagne, en plus la coupe d'Espagne, c'est par match aller-retour. Bon.
Ouais, ça, c'est
j'ai l'impression qu'ils jouent aussi en plein de semaine seulement. Bon, c'est vrai que là, par contre, dans les coupes, il faut jouer vraiment en réserve. Ou Messi joue tout le temps. Bon, mais là, c'est un cas spécial.
Ouais, en Angleterre aussi, je crois que si tu fais match nul dans les matchs de coupe, tu es obligé de le rejouer.
Ouais, tu le rejoues sur le terrain de celui qui était à l'extérieur au point de match. Ouais,
ils n'ont pas compris, les Anglais, qu'il y avait des pénaltys qui avaient été inventés. Mais bon. Du rugby ce week-end avec le RCML qui trébuche chez le leader Tosh Corbière 22-17 pour le RCML, deux essais Bresson et Clémentique, deux transformations et une pénalité de Vessade. Alors le RCML qui a pu revenir au score après un carton rouge pour Tosh à la 70e, mais ça n'a pas été suffisant. À la mi-temps, 15-0, Patrick. On disait match de la dernière chance.
Bah ouais, là un peu décevant, plus que décevant même. Donc on sait que Tosh Corbière, bon, une équipe qui est classé au-dessus, mais qui avait quand même explosé au match aller à Mende. Donc on espérait enfin cette première victoire à l'extérieur et on a failli faire un même chou blanc parce que s'il n'y a pas ce carton rouge, à mon avis, tu repars avec une défaite sans bonus. Donc le carton rouge dans les 10 dernières minutes t'a permis de marquer 2 essais, donc de marquer ce point de bonus. Et bon, depuis le début de la saison, tu as marqué 7 points de bonus, c'est l'équipe qui en a marqué le plus, heureusement, parce que sinon tu serais encore plus décroché et il commence à y avoir un petit écart avec le club du haut, même si tu as un match de moins. Mais bon,
7 points d'écart.
Ouais, voilà, c'est bon, je sais pas, c'est un peu inquiétant, hein. Je lâche le mot parce qu'on espérait beaucoup de cette équipe. Et puis finalement, voilà, tu es au milieu de tableau et tu sais pas si tu vas basculer du bon côté pour ces playoffs.
Justement, notre spécialiste classement, Aurélien, ça donne quoi?
Alors, le classement du rugby, donc, premier Tosh Corbière avec 34 points, deuxième Cruzy Saint-Chinian, 34 points aussi. Troisième, Nissan Colombier, 33 points. Quatrième, Vinassan, 32 points. Et cinquième, Mende, 27 points.
Voilà, et Trèbes colle à 26 points. Sixième, on rappelle, c'est une poule de 9.
Voilà, il y a des clubs qui ont un match de plus que Mende. Je pense que les deux premiers ont un match de plus. Par contre, le club a 33, je pense qu'il a le même nombre de points que Mende. Donc là, déjà 6 points d'écart. Bon, même si avec une victoire bonifiée, tu marques 5 points, bon, ça commence quand même un peu à faire. Surtout que la saison est bientôt terminée, c'est que 3-4 matchs.
Ah ouais, déjà. Avant,
eh ben oui, parce que bon, ça va vite. Hein. Donc tu n'es que 9, tu n'es que 9 dans la poule. Donc,
bon. 16 matchs.
Voilà. Et c'est que le premier qui monte.
Et non, et après il y a des playoffs.
Ah, il y a des playoffs.
Il y a des playoffs, donc bon.
Je crois qu'il y a que le premier qui est assuré de monter.
Voilà, le premier, ouais. Et sinon, après il y a des playoffs.
Il faut quand même nuancer. Enfin, je me permets de nuancer tes propos, Patrick, parce que perdre que de 5 points chez le leader à l'extérieur, c'est pas non plus déshonorant. C'est pas non plus non,
mais piquette, c'est la physionomie du match.
La physionomie, ouais, c'est une chose.
Parce que tu exploses d'entrée au bout de 10 minutes, tu as déjà pris 2 essais, donc bon, ça veut dire que tu étais un peu dans les vestiaires au début du match.
Aurore, tu suis les autres sports lausériens
J'essaye, ouais, je suis principalement le foot et le volley. J'essaye d'aller voir, quand j'ai la possibilité, d'aller voir le volley notamment.
D'accord, mais justement, on va parler de volley avec la fin des matchs de la première phase, avec une nouvelle victoire pour les MVL 3-7-0 contre Toactuk. Le classement définitif de cette première phase de poule, Aurélien.
Alors, pour le volley, donc Mende premier, 39 points, deuxième Arles, 30 points, troisième Alès, 26 points, quatrième Toulouse Toactuk, 18 points. Donc ce sont les quatre qualifiés pour les playoffs.
Voilà, et sont éliminés Puy-Gouzon, Saint-Étienne, Saint-Égrève et Narbonne. Oui, Laurent.
Oui, c'était juste pour rappeler à Christian que la semaine dernière, il avait un peu la pétoche ce match à Toulouse. Bon, j'avais dit 3-0, hein, on s'était pas encore trompé. Il y a que dalle à Toulouse, quoi. C'est pas un pays de.
Ouais, tu as failli avoir tort sur le premier set, parce que
ouais, bon,
29-27, bon, ça aurait pu tourner de l'autre côté, mais après, il n'y a pas eu de match.
Il y a eu 3 balles de 7 pour les Toulousains qui n'ont pas réussi, et les Mandois, eux, ont eu besoin que de 2 balles de 7 pour remporter ce premier set. 29-27, hein, c'est ça?
Oui, 29-27 au premier.
Alors, et après, 25-18.
25-18 et 25-15 ou 25-15-25-18.
Non, je crois que c'est 25-18 et 25-18.
Donc maintenant, on doit avoir les autres qualifiés aussi, alors?
Voilà, oui. Je ne sais pas du tout.
Donc, comme Christian, par contre, là, ne s'était pas trompé, on savait qu'il y avait, pour la quatrième place, un match à distance entre 7, donc la réserve de 7 et la réserve de Nice. Et donc, Christian avait prévu une victoire de 7 parce qu'il jouait contre quasiment le dernier, mais même le dernier. Donc, 7, bien sûr, a gagné ce match. Donc c'est 7 qui est qualifié, donc les 4 prochains adversaires de Mende, ça sera donc la réserve de 7, la réserve de Montpellier, Marseille et donc Monaco.
Et Monaco.
Monaco. Donc
à vos agendas.
Week-end prochain, pas de match, et donc ça commence le week-end du 13 et 14 février, et donc il va falloir attendre le calendrier, même si on sait déjà que le premier match pour Mende sera à l'extérieur contre le 4e de l'autre poule. Donc a priori 7 ou Marseille. Bon là il aurait fallu faire les calculs, je les ai pas fait, mais bon voilà, en principe ça sera un des deux, mais ça commencera par un déplacement.
Et Monaco a fini premier alors?
Ouais.
Monaco, voilà, il faut voir, mais en principe Monaco a fini premier.
Monaco était premier. Voilà. Ouais.
Monaco finit premier, ouais. Donc deuxième Montpellier, et après la troisième place se joue entre Marseille et
7. Je crois que Marseille fait troisième et 7 quatrième.
Et alors on a dit une petite erreur la semaine dernière. Donc on avait dit que Mende attaquerait avec le maximum de points, soit 18. Et donc on avait oublié qu'il y a eu un match contre Arles, qui était certes une victoire, mais uniquement 3-7 à 2. Donc à ce moment-là, on a marqué que 2 points. Donc comme Arles est qualifié, on va commencer avec 17 points sur 18, bon, ce qui est quand même excellent.
C'est
et donc
confortable.
On va attaquer ce qui est sûr, on va attaquer cette poule premier. avec, bon là aussi il faudrait calculer, avec 5 ou 6 points d'avance par rapport au meilleur de l'autre.
Mais le plus important, c'est de la finir premier. En fait.
Tu as raison, parce que là, par contre, là, on en est sûr, il n'y a que le premier, donc de ces 8 équipes, qui vont donc pour la deuxième phase, qui est assuré de monter en élite, donc la N1 l'année prochaine.
Et ça, Monaco, c'est sûr et a combien de points de retard sur nous, alors, du coup?
Ben, 5 ou 6. On a quelques jokers.
C'est peinard.
Après, il faudra voir hein, si parmi les équipes qui peuvent monter, il y a encore des réserves pro, savoir quelles seront leurs politiques, si elles veulent monter, si elles veulent pas monter.
Exactement, tu as raison.
Si tu finis deuxième derrière la réserve de 7 qui décide de pas, qui ne monte pas.
Par contre, là, on avait perdu contre Pigouzon, donc là, on avait marqué qu'un point. Donc là, comme Pigouzon est éliminé, bon, ben là, cette défaite est effacée, donc ça, c'est excellent. Pour nos points pour la deuxième phase.
Ouais, c'est vrai que sur la première phase, man, sur les 14 matchs de la première phase, ils en gagnent 10, 3-7 à 0. Donc c'est vrai qu'ils ont, comme tu disais, ils ont fait le maximum de points. Et donc ça promet de beaux matchs pour les play-offs.
Ben là, tu vois déjà, par rapport aux trois autres équipes de ta poule, c'est-à-dire Arles, Alès et Toulouse, bon, il y a déjà une énorme différence. La différence sera encore plus importante pour la deuxième phase. Donc déjà, quasiment ces trois équipes, ça va être vraiment quasiment impossible pour elles de te rattraper. Donc voilà, ton principal concurrent, ça va être Monaco. Après Montpellier, comme Christian l'a dit, mais bon, Montpellier peut très bien refuser de monter. Donc en fait, voilà, à mon avis, ça va se jouer entre Monaco et Mende.
Et Montpellier peuvent gagner 4-0 comme perdre à domicile.
Après, ils peuvent finir premier, c'est sûr. Mais bon, après, tu sais pas.
C'est vrai que 4-0 au volet...
Voilà, c'est compliqué. Hein.
C'est rare.
Il fallait que je le place pour une fois qu'on gagne 4-0 au foot. Ouais. Aurore, on va monter ou pas?
J'espère.
Oui, je parle du volet, pas de Montpellier.
Pas du foot. Non, là, c'est pas possible.
C'est pas possible, on est déjà au top. La réserve gagne contre Saint-Gély-du-Fesc 3-7 à 2 et 5e du classement. Comment ça se passe pour la réserve? C'est comme pour la une? Non, il n'y a pas de poule là.
Non,
c'est
je crois
juste,
pas, non.
Non, ouais. C'est ce qui me semblait.
Il n'y a pas de play-off, non.
Alors, nos amis féminines gagnent 3-7 à 0 contre Béziers, mais c'est Béziers Marosson, c'est pas Béziers qui les talonne au classement. Spécialiste classement, Aurélien Lacaze, les filles, elles en sont où?
Alors, elles sont premières. Première du classement, Mende de 25 points. Deuxième Béziers 25 points aussi mais qui a un match à moins. Troisième Latte Montpellier, quatrième Clermont-Lérault.
Voilà, 21 points et 15 points, donc c'est quasiment assuré de jouer les playoffs. On sait que c'est les deux premiers qui jouent les playoffs. On verra ce que ça va donner. En tout cas, beau parcours, hein, encore une fois, rien à dire.
Ouais, excellent parcours pour le moment. Il faudra voir cette deuxième phase qui s'annonce quand même ardue.
Handball pré-national masculine, 12e journée. Mende s'impose à Clermont 28 à 22 et reste plus que jamais leader avec eh bien une partie qui a été maîtrisée de bout en bout, 8-13 à la mi-temps. Laurent, tu as eu des échos sur ce match?
Pas plus que ce que tu dis. Donc, match bien maîtrisé. À l'aller, j'étais allé voir le match à Mende, il y avait eu, je crois qu'il y avait eu 20-25 points d'écart. Donc, on savait que les Mendois étaient supérieurs. Là, il fallait confirmer, pas se gourer, puisque la semaine prochaine, il y a quand même le match de la saison que tout le monde attend avec la réception de Agde. Donc, il fallait pas arriver à ce match avec un petit bémol, ni de blessé. Donc, je crois pas que ce soit le cas. Donc, l'effectif sera complet la semaine prochaine, puisque Maxime André sera suspendu qu'à partir la semaine suivante. Donc, ce qui est une bonne chose. Et puis, donc voilà. Donc, je vous invite tous à venir samedi soir à 20h30 après le match de basket à la Vernède pour encourager le MGC. Je crois qu'ils ont déjà fait pas mal de pubs. Il y aura beaucoup de monde. Et c'est bien, il va falloir les encourager puisqu'on se rappelle qu'au match aller, c'est leur unique défaite où ils avaient pris une pile. Je crois qu'il y avait eu 15 points d'écart.
Ça s'était mal passé.
Ça s'était pas super bien passé. Donc du coup, il faudra rendre la monnaie de la pièce à nos amis d'Agde.
Gagner déjà pour les mettre un petit peu à distance. Pour le goal à barrage particulier, ça va être un peu compliqué vu le score de l'aller. Mais déjà, s'ils parviennent à s'imposer contre Agde, ils auront quand même fait une belle opération.
Ils ont créé une très belle affiche pour ce match-là. Le club de...
Faite par Michael Pradier.
Absolument.
Qui s'appelle MP Création, je crois, sa société, qui a fait un joli tableau, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça.
Une affiche.
Ouais, c'est bon. Dans
le jargon, on dit ça.
En plus, avec c'est bien parce que... sur un joueur qu'on parle très rarement, on en avait parlé ici avec le coach, puisque puisque on l'avait rencontré, c'est Maxime Joubert.
Maxime Joubert, le pilier de la défense.
Voilà, le
MGC.
Le Golgoth de la défense et que qu'on parle rarement. Là, du coup, il se retrouve sur une affiche, c'est bien pour lui.
Mmh, absolument.
Il y a eu une énorme marche aussi du pivot roumain Lefer, fois de plus, qui est en train vraiment d'exploser après une.
7 buts.
Ouais, 7 voilà, buts, il en avait mis 9 la semaine dernière.
Il a pris ses marques. Hein. Bon, c'est vrai que c'était pas évident d'arriver dans un nouveau club. Bon, des débuts un peu voilà, normaux sans plus, mais là, actuellement, c'est vraiment un joueur vraiment phare. Et puis aussi, il joue des deux côtés du terrain. Il est impressionnant des deux côtés du terrain. Donc c'est vrai qu'un match énorme samedi, bien sûr, à ne rater sous aucun prétexte. Si tu bats Agde de n'importe quel score, bon, quasiment tu les écartes de la montée. Donc bon, voilà, on voit toute l'importance de ce match.
Tu vas tirailler, Laurent, hein, entre Agde ça et The Voice.
Agde qui s'en est sorti un peu miraculeusement ce week-end, ouais, avec une toute petite victoire 31-30 contre Prades. Bon, voilà.
Si quelqu'un peut prévoir une télé à la Vernède, ça faciliterait le choix de Laurent parce que bon,
parce qu'il a The Voice quand même.
Il a quand même The Voice.
Non, mais là, il a une tablette, il regarde le match, il a la tablette en même temps.
Non, mais depuis qu'il n'y a plus Jennifer dans le jury, c'est un peu moins bien, je trouve, The Voice.
Je suis d'accord avec toi.
Ouais. C'est vrai qu'au niveau tenue,
Garou est moins sexy, ouais, quoi. Mm.
Au niveau tenue vestimentaire, ça perd son charme.
Ouais. Ouais, ouais. Bon. J'avouerai que je ne l'ai pas vu ce week-end très rapidement, mais on attendait Montpellier à jour de foot. Hein, Luc ?
Ouais. Oh, on a vu juste.
Sinon, on parle de sport ou quoi dans cette émission.
Absolument. D'ailleurs, handball, on est passé.
Nous, après notre match de basket, on pourrait aller voir les handballeurs justement. Bon, on n'arrivera pas au début du match.
Mais vous, ça sera plié en plus. Si on vient vous voir, troisième quart-temps, vous avez 20 points d'avance, c'est plié.
Ouais,
voilà, on peut tous aller au hand.
Ouais, tout à fait.
Même vous, hein, vous laissez 4-5 joueurs pour finir le match.
C'est ça.
Vous venez. C'est ça. On est passé complètement à côté des pronostics du championnat de handball, hein, d'ailleurs, d'Europe. Oui. Hein, on a tous dit, ouais, la France, ouh. Et non, l'Allemagne. La France s'est fait éliminer avant les demi-finales.
On avait dit tous la France.
Avec un gardien allemand, un final vraiment hallucinant, 24 arrêts, impressionnant. Mm.
Handball toujours, les filles, tu es allé voir le match, Laurent, toi, des filles, non ?
Oui.
Oui,
les filles ont gagné, elles ont gagné largement, alors je crois que c'est 38-18, quelque chose comme ça, contre les dernières à Ramon. Donc, certes, en face, elles sont arrivées juste avec le... Non, alors c'est 36-16. Elles sont arrivées qu'avec juste le nombre de joueuses. Bon, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Mais bon, ce qui a fait plaisir, c'est qu'il y a eu quand même du beau jeu de la part des Mandoises. Et ça faisait un certain temps qu'il n'y en avait plus. Donc, bonne ambiance, des filles qui se tapent la main. Bon, c'est bien, c'était sympa. non, enfin, je veux dire, un esprit d'équipe, une cohésion qu'il n'y avait pas ces derniers temps.
Voilà. Très bien.
Vous êtes louches, les mecs.
Oui. Handball Nord-Lozère, tirage au sort de la Coupe de France. On l'attendait, ce tirage, ça y en sait. Les filles rentrent dans la Drôme le dimanche 21 février pour jouer contre le Handball Club Sihan à 14h30. Et si elles se qualifient pour les huitièmes de finale qui auront lieu donc le même jour à 17h, alors notre spécialiste handball, Laurent, que vaut cette équipe de Sihan ?
Oui, alors cette équipe de Sihan est quand même...
N'insie rien.
Oui, non, mais... Je me suis un peu renseigné, donc c'est une équipe qui est bien classée dans son championnat.
Qui joue à 6.
Et donc, mais quand même, les Lozériennes ont toutes leurs chances. Et donc, du coup, on leur souhaite de passer ce premier tour, enfin, ce huitième de finale.
Ce
16e, oui, voilà, pardon. Et donc, de jouer le huitième de finale le soir à 17h. Mais,
ouais. Ça va être compliqué quand même, parce que 14h30 entre le premier match... Et 10, enchaîné à 17h. Oui,
pour les deux équipes, ça sera pareil.
Vous nous aviez dit 9h30 la semaine dernière.
Non, non, c'est un tirage au sort, en fait.
Oui, mais on nous avait dit 9h.
Peut-être. Ce que disait, voilà, il y a la possibilité de jouer à 9h, mais l'autre possibilité, c'était de jouer à 9h.
Mais peut-être que l'autre équipe du 8ème de finale joue à 9h, par contre.
Ah ouais, alors là, ce serait totalement grave.
J'ose espérer que les tirages au sort ont été faits de manière à ce qu'il y ait quand même au moins cette équité qui soit respectée.
Non, mais de toute façon, arriver à ce niveau-là de la compète, c'est au mental que tu joues. C'est pas parce que t'as 3 heures de repos.
C'était handball, moi.
C'est pas parce que t'as 3 heures de repos supplémentaires. Non, non, non. Et les Lozériennes ont prouvé qu'elles avaient un très gros mental et un coach qui saura les galvaniser.
Qui a du mental aussi.
Ouais.
Toi, Aurore, justement, qui, sur les tournois de tennis, joue plusieurs matchs consécutifs, c'est pareil, c'est le mental qui fait la différence ?
Ben, le tennis, c'est déjà principalement mental, je pense, parce qu'on joue d'abord contre soi-même avant de jouer contre son adversaire. Donc c'est vrai que ça joue beaucoup dans la tête. On peut être plus fort techniquement que son adversaire, mais si ce jour-là, dans la tête, on n'est pas bien, ben, on fera pas de bonnes choses et on finira par perdre, ou en tout cas à cravacher, quoi. Mmh.
Tu acquiesces, Patrick ?
Oui, il y a une grosse dimension mentale au tennis. Bon, bien sûr, il y a tout un volet technique, bien évidemment, et tactique, mais quand vraiment les deux adversaires sont proches, c'est incontestablement le mental qui fait la différence, la volonté de s'arracher sur des points qui sont plus importants que d'autres.
On revient au hand avec l'équipe 1 fille, justement, qui s'imposait très largement 30-12 face à Schotzeg. L'équipe 2 qui conforte sa troisième place avec une victoire 20-10 contre Riomes Montagne. Allez, on passe au foot maintenant avec l'AFL qui perd à Perpignan-Canet 2-1. 2-0 à la mi-temps, puis réduction du score de Fadigol à la 51e. Frontignan n'obtient que le match nul, 2-0 à la Grande Motte, mais Narbonne gagne facilement contre Argelès, 3-0. Au classement, Aurélien, ça donne quoi ?
Alors, ça donne main de toujours premier, 44 points malgré cette défaite. Mais attention, Narbonne est aussi à 44 points. Troisième, Frontignan, 40 points, mais avec un match en moins. Quatrième, Bagnols-Pont, 38 points. Cinquième, Aigues-Mortes, 38 points aussi. Sixième, Perpignan aussi, 38 points.
Très mauvaise opération, Patrick.
Oui, très mauvaise opération. Face à ce club de Canet qui est un peu la bête noire, puisque tu t'étais déjà incliné 1-0 en Coupe de France.
En Coupe de France. Oui, en Coupe de France, pardon.
À domicile, tu avais perdu contre Bavernet, l'autre club de Perpignan. Mauvaise entame, hein, puisque 2-0 à la mi-temps, on sait après que c'est compliqué de revenir. Et puis tu vois, ce championnat qui va être fou jusqu'à la fin, puisque Aurélien a annoncé le classement, mais bon, Perpignan à 38, mais avec aussi un match en moins. Donc ça peut faire 42, même si on sait que Perpignan aussi a 3 points de pénalité. Donc toujours est-il que le duel à 3 se confirme de semaine en semaine avec un club de Narbonne, un début de saison assez catastrophique de leur part, et puis maintenant un enchaînement de victoires tout à fait hallucinant. Et donc dimanche au prochain, je pense qu'il y a un Frontignan Narbonne qui vraiment vaudra le coup. Donc Mende reçoit Latte, donc Latte qui est dixième, hein, c'est ça. Donc victoire bien sûr indispensable à domicile, et donc on verra ce match. Il faudrait presque match nul. Ça nous arrangerait.
Frontignan et Narbonne.
Voilà.
C'est vrai qu'ils peinent un peu les joueurs de l'AFL en ce début d'année. Ça avait souvent été le cas les autres années. Le mois de janvier n'est pas forcément le mois préféré de l'AFL.
Oui. Alors d'habitude on le met sur le compte de la météo. Là, cette fois-ci,
il fait trop chaud, non. Peut-être.
Ouais, je sais pas.
Ah, j'ai l'impression que il y a pas mal de joueurs qui sont fatigués, qui ont quand même petites blessures. Il y a des blessés, des vrais blessés. Et puis, il y en a qui jouent aussi un peu blessés. On l'a vu la semaine dernière. Par exemple, Nabil Zanina a joué, mais vraiment, il fallait pas qu'il joue, quoi. Bon, il a été obligé de jouer, mais vraiment,
donc,
médicalement, il aurait pas fallu qu'il joue.
Il manquait quand même deux milieux de terrain incontournable, donc Nabil Zanina et Fedel,
ouais.
Florian. Donc du coup, c'est vrai que quand il faut modifier tout ton milieu de terrain au football, ça change beaucoup de choses. Donc peut-être c'est pour ça que le début du match a été un petit peu foiré. Cela dit, il y a eu une très très grosse deuxième mi-temps et donc du coup, c'est dommage d'avoir perdu, d'avoir pris un but casquette en fin de première, quoi. C'est surtout ça qui fait râler, quoi.
Je crois qu'il y a un pénalty qui a été un peu oublié aussi, non, pour l'AFL.
Ouais, on va pas revenir sur les.
Enfin, l'arbitrage. C'est des défaites qu'on n'aurait peut-être pas vues l'an dernier aussi. Hein. Là, ça en fait beaucoup de défaites. Pas surprise, mais que. Les matchs que tu dois gagner.
C'est vrai que tu as déjà perdu, je pense, déjà 4 matchs. Donc les années précédentes, avec 4 défaites, tu étais quasiment déjà hors course pour la montée. Et donc cette année, à cause de ce championnat et grâce à ce championnat hyper serré, tu es quand même premier. Alors tu es quand même au goal average, tu es premier puisque tu as gagné un match aller à Narbonne. Donc c'est qui explique pourquoi tu es actuellement leader de ce championnat.
Alors j'ai discuté avec des dirigeants qui m'ont dit, qui étaient un peu, pas sceptiques, mais qui me disaient que le jeu n'était pas vraiment là cette année, qui s'inquiétaient un peu.
C'est vrai, on l'a vu contre la Grande Motte, des difficultés au milieu de terrain. Hein. Laurent parlait, donc en plus, tu as dit des blessés, mais il y a aussi Jérémy Brassac qui est blessé, tu as Thibaut Barandoc qui est blessé aussi. Donc tu vois, on est déjà à 4 milieux de terrain qui sont absents. Bon, c'est vrai que c'est compliqué. On sent que ça manque de un peu de fluidité entre le passage de la défense vers l'attaque. Et donc, bien sûr, c'est là où le rôle des milieux de terrain joue à plein. Et donc, c'est un peu compliqué pour la FL en ce moment dans cette transition entre la défense et l'attaque.
Et puis, c'est sûr que avoir trois entraîneurs au cours d'une même saison, ça aide pas à stabiliser un jeu, même si les joueurs se connaissent, même s'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Il empêche que chaque entraîneur va apporter un peu sa touche, changer quelque chose.
Faut jouer à l'anglaise, c'est, Patrick, sinon.
Peut-être ça. Bah, ouais. Le problème, c'est que t'as pas une équipe pour jouer à l'anglaise. Enfin, j'ai pas l'impression.
Tiens, Rebolloso qui est très bon dans la tête, qui est vraiment un jump incroyable, ouais, qui peut dévier les ballons, et d'ailleurs qui les dévie bien. Hein. Après, c'est vrai que ce championnat, ben, tu tiens à la preuve, parce que dimanche dernier, tu joues contre la Grande Motte. Moi, c'est vrai que la Grande Motte, il y a des joueurs, c'est un grand club, tout ça, mais tu vois, cette année, ils sont un peu dans le dur, même plus que dans le dur, et donc tu gagnes tout à fait normalement, et le gardien de Mende n'a pas un seul arrêt à effectuer dimanche dernier, et puis donc ce dimanche, ils font match nul, alors qu'ils ont un carton rouge donc contre la FL, donc un défenseur en moins, puisqu'il était automatiquement suspendu contre Frontignan, et malgré ce, ben voilà, 2-2, à la Grande Motte, contre Frontignan, donc c'est là que tu vois que tout est possible chaque week-end, et les meilleures équipes peuvent se faire accrocher par des équipes de bas de tableau, puisque la Grande Motte, notre ami Aurélien le confirme avec sa feuille, est 12e sur 14. Hein, donc vraiment au fond du classement. Quoi.
Je viens d'avoir une info, pour l'handball Nord-Lozère, la Coupe de France, elle joue à 14h. L'équipe qu'elles rencontreront joue à midi.
Si elle passe.
Si elle passe. Donc 2 heures avant. Et c'est 2 fois 25 minutes, du coup, les matchs.
Ah, d'accord. Donc, on n'est plus à 2 fois 30. Comme... Oui. Bon, ça met quand même impossible.
C'est vrai que...
Mais si, 10 minutes à moins.
10 minutes,
c'est pas non plus...
10 minutes, ça joue.
Il faut quand même faire 50 minutes.
Tu sais pas tout ce qu'il fait, dit Laurent, 10 minutes. Ouais.
Regardez, toi, si tu jouais 10 minutes de moins par match.
Ça serait bon.
Je jouerais pas.
Allez, la réserve de la FL obtient le match nul contre l'US du Trèfle avec un doublé de Brunel et reste 11e sur 13. Match nul également pour Badarou, Auvignan, 3 buts partout, but de Peytavin, Barandon et Azema. Le NL n'y arrive plus et perd à domicile contre Montluçon, 2-0. Alors, le club de Nord-Lozère, j'ai vu le classement. Avant-dernier.
Et ouais, parce qu'il y a des matchs en retard en plus.
Non, je crois qu'ils sont. Non,
ils sont pas avant-dernier, mais
ils sont devant Volvic. Ils sont avant-dernier.
Ouais, parce qu'il y a Saint-Flour à perdre.
29 points, oui, mais ils sont à 29 points.
Oui, mais officiellement.
Mais il y a des matchs en moins. Il y a des clubs qui sont derrière qui ont des matchs en moins.
Ils ont un match de moins, ouais.
Donc, après, je crois que Saint-Flour. Je me demande si c'est pas Saint-Flour-Volvic d'ailleurs le match en moins.
Après, il y a 7 points entre le premier et eux. Donc ouais, avec un match de moins, tu gagnes, ça fait plus que 3 points d'écart.
Mais là, ça fait 2 défaites d'affilée à domicile. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a un problème d'adaptation, ce fameux terrain synthétique de Saint-Alban.
Il y a surtout qu'il y avait beaucoup de blessés, de suspendus, notamment le week-end d'avant. Et ce week-end aussi, puisqu'il y avait 5 joueurs habituellement titulaires qui étaient absents. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas évident de rentrer dans un match avec la moitié de l'équipe qui est modifiée. Quoi.
Ouais, mais encore une fois, c'est vrai que ce championnat est tellement serré que il y a absolument rien qui est joué.
Mais l'énorme...
Il suffit d'une ou deux victoires pour se relancer.
L'énorme souci pour Nord-Lozère, c'est de ne pas avoir marqué si peu de buts. Quoi. Ouais. C'est et de loin la plus mauvaise attaque de ce championnat.
Ouais. D'ailleurs, notre ami Lien Fontigne, il s'est arrêté depuis qu'on l'a reçu. Ah, ils l'ont redescendu.
Ils l'ont mis derrière, ouais.
Leur meilleur buteur.
Et voilà.
Quelle idée. Ouais. On ne les arrête plus, Marvejol. Encore un beau succès. 4-1 à Montpellier Petit Bar. On sait que c'est jamais facile d'aller jouer là-bas.
Ah oui, tu peux le dire.
Doublé de Diallo, 16e, 85e. But d'Endour, 48e sur penalty. Et de Yagba, la 79e. Au classement, Aurélien, je vais le dire, mais oh là là. Notre spécialiste de classement. Pardon.
Donc premier 7-2, 44 points, deuxième Marvejol 43 points, troisième Béziers 2, 41 points, quatrième Beaucaire 36 points. Et puis après il y a un petit écart qui se fait.
Voilà, ce qui est dommage, c'est que 7 continue à gagner aussi.
Oui, 7 a gagné 2-0.
7 ne fait aucun faux pas. Du coup, Marvejol reste toujours deuxième.
Ouais, mais bon, on est quand même
pas
point.
Quoi qu'au chaud,
on
bien.
Reste en outsider pour repasser devant à la fin.
À la dernière journée.
Ouais, en tout cas...
mais c'est totalement hallucinant.
C'est hallucinant.
En plus, on voit des scores vraiment... alors, tant que l'ENL a des soucis pour marquer des buts, bon, ben là, du côté de Marvejol, c'est vraiment l'attaque à tout va, avec le danger peut venir de partout, des buteurs de tous les côtés, et puis cet avant-centre Diallo, ben voilà, il faudrait se renseigner pour savoir combien de buts il a marqué depuis le début de la saison, mais... Bon, non, mais Marvejol, chapeau, hein, chapeau.
Il paraît que l'OM est dessus, d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai. Quoique, j'ai bien aimé leur attaquant de CFA, là, qui est rentré à la fin. Il en veut, celui qui a marqué le but.
Ouais, il vient de Béziers. Ouais.
Ok. Mais il se peut qu'à la fin de l'année, l'attaque de Marvejol, il y ait pas mal de clubs qui soient sur le coup. Hein.
Ah oui, non, mais là, c'est obligatoire.
Je pense que l'un des principaux exploits de Marvejol l'année dernière, à l'intersaison, c'est d'avoir réussi à garder tout le monde.
Oui, c'est vrai.
D'avoir réussi à mettre sur pied un budget et de garder d'avoir gardé tous ces joueurs. C'est quand le match contre 7, d'ailleurs ?
Je sais pas. Je sais que ce dimanche, ils reçoivent Fabregas, qui est en milieu de tableau. Et signalons quand même que ce match petit bar, le gardien titulaire Banao n'était pas là. Donc tu gagnes à Montpellier petit bar, à l'extérieur, avec ton gardien remplaçant.
La semaine d'avant aussi, il était absent.
Et ouais, mais comme tu marques plus de buts.
Ce qui veut dire quand même que, bon, il y a un effectif quand même qui. Puis voilà, la mayonnaise a bien pris. Et donc, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant.
Il y a un gros boulot aussi du coach dont on ne parle pas très souvent, Akita Diompi, qui fait un gros boulot auprès de cette équipe qui est une équipe jeune en plus. Hein, il ne faut pas oublier ça. C'est une très très jeune équipe.
Ouais, en tout cas, vraiment bravo à cette équipe de Marvejol qui nous étonne de week-end en week-end. Aurélien.
D'ailleurs, est-ce qu'on connaît le résultat du sportif de l'année Midi Libre ? C'est fini ou pas ?
Les votes sont clos.
Depuis hier.
Donc on connaît ?
Non.
Tu le sais, toi ?
Non, je ne connais pas parce que je vous rappelle que la date butoir étant le 31 janvier, on est le 1er février. On va laisser un peu de temps à la poste pour.
Oh, tu peux en laisser le
pour les retardataires.
Tu peux en laisser beaucoup le mois.
On devrait tout avoir d'ici d'ici début septembre. ouais. Non, je pense que. Courant de la semaine prochaine, on aura ça. Mais comme je suis pas là, il va falloir attendre le début de la semaine d'après.
Il paraît que vous avez demandé à Laurent de remettre un des prix à la féminine de l'année et qu'il viendrait habillé en short court.
Oui, mais elle a dit que si c'était le cas, elle viendrait pas.
Ah, d'accord, dommage. On parle de tennis. Allez, le tennis club Mende Cœur de Lozère avec notre invité Aurore Gaillot. Aurore, est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment ça marche, dans quelle division évolue le tennis club Mende Lozère?
Alors en fait, actuellement, il y a le championnat de Lozère Première Division qui est en cours depuis 3 semaines et 1 mois pour les garçons. En fait, chez les femmes, alors malheureusement, il y a seulement 4 équipes qui ont été inscrites et Marvejol a fait forfait général. Donc ce qui reste plus que seulement 3 équipes dans le championnat, avec quand même des matchs aller-retour, donc ce qui permet de jouer quand même un petit peu. Donc il n'y a plus que 3 équipes et en fait, chaque rencontre se divise en 4 simples. Donc chaque match vaut 1 point et un match de double qui vaut également 1 point. Donc voilà.
Alors Laurent n'a rien compris, mais c'est pas grave.
En fait, c'est une coupe Davis à chaque fois, quoi.
C'est un peu ça, voilà. Entre clubs de Lozère, voilà.
Et vous jouez dans une île à chaque fois ou...
Dans une île ?
Bah oui, la Coupe Davis, ça se joue dans les îles. Donc.
Pas en Guadeloupe, en tout cas, on aimerait bien, si c'est possible d'aller jouer en Guadeloupe ou en Martinique, il n'y a pas de souci.
On y reviendra. C'est qui
un autre débat.
Alors, Marvejol a déclaré forfait, c'est qui les autres clubs ? Il y a Saint-Chély, j'imagine ?
Alors, il y a Saint-Chély, effectivement, et donc il y a la Canourgue et le TC Mende, chez les femmes en tout cas. Chez les hommes, il y a un petit peu plus d'équipes, notamment Saint-Chély qui a inscrit 2 équipes, équipe 1 et équipe 2. Il y a aussi Aumont-Aubrac. Qui joue, ce qui n'est pas le cas chez les filles. Donc c'est vrai que chez les hommes, il y a un petit peu plus de rencontres que chez les femmes.
Oui. Mais Patrick, ça marche le tennis en Lozère ? Il y a pas mal de licenciés
Oui, il y a pas mal de licenciés. Bon, le chiffre, je ne le connais pas, mais bon, c'est un des sports où il y a le plus de licenciés en Lozère. Ouais.
Comment ça se passe pour monter enfin, je ne sais pas si d'ailleurs on veut monter ou pas, parce que tu peux monter en régional, j'imagine, après départemental.
Alors en fait, le championnat régional, c'est un petit peu différent. Donc il se passe au mois de mars et avril. Et en fait, la particularité de la Lozère, c'est qu'elle inscrit une équipe pour le département. Donc c'est des joueurs et des joueuses qui viennent de tous les clubs du département, parce que là c'est vrai que vu le niveau qui est demandé en régional, on rencontre des joueurs des clubs comme comme Montpellier, voilà, qui peuvent avoir des équipes jusqu'en national, qui ont de très gros effectifs, de très gros joueurs et joueuses.
De très gros moyens.
Mais
ils ont des terrains déjà, hein, parce que en Lozère, il n'y a pas des terrains de tennis partout.
Non, mais on a quand même la chance d'avoir, on a quand même de belles structures au niveau de oui, Mende. On a quand même 8 extérieurs et 2 intérieurs. Une très belle installation à Saint-Chély aussi.
Saint-Chély, ouais.
Ouais. Qui est tout en œuvre d'ailleurs.
Parce que exactement. Tu parlais du club de Aumont. Il y a un terrain de tennis à Aumont ?
Oui, il y a un terrain de tennis.
Ah, d'accord.
En extérieur.
Non, il joue sur le parking. Il joue sur un parking. Là.
Il est sur la neige, ça ne doit pas rebondir facilement.
Toi, tu vas leur présenter des excuses.
Ils mettent 2 caddies pour tendre le filet.
Le niveau est bon, Lozère, ou pas ?
Le niveau est pas mauvais, le seul souci c'est on va dire surtout chez les féminines, c'est un peu le manque de joueuses. On retombe, c'est vrai, en compétition, on retombe toujours un petit peu sur les mêmes, mais bon, non, mais il y a un assez bon niveau. C'est aussi pour ça qu'on peut s'inscrire en régional. S'il n'y avait pas un bon niveau, ça serait même pas la peine d'inscrire une équipe en régional.
C'est à cause du badminton, ça, qui prend un peu de joueuses.
Ouais, mais
Patrick.
Je pense que c'est ça. Ouais.
Non, mais c'est le même principe que pour l'athlétisme, où ils ont fait un club athlétisme Lozère pour justement avoir d'excellents résultats au niveau régional. Et donc le tennis a pris le même principe, et c'est une excellente idée pour justement rivaliser avec les clubs de l'Hérault et du Gard, etc.
Qu'est-ce qu'il y a, messieurs?
Non, je disais que le comité départemental de basket était en train de réfléchir à la même chose pour faire une équipe féminine, une entente lozérienne pour que les féminines puissent jouer en championnat régional la saison prochaine.
D'accord. Voilà. C'est fou comme ils placent ces infos. mais elles savent que c'est toi qui vas les coacher ?
Non, ce ne sera pas moi, non.
D'accord. Et alors, il y a le tennis club de Mende, donc, j'imagine beaucoup de licenciés, on ne va pas donner le nombre exactement. Il y a une école de tennis pour les jeunes ?
Oui, bien sûr, il y a une école de tennis. Donc, depuis cette année, c'est Robin Villette qui s'occupe des entraînements. Donc, depuis les tout petits, on peut commencer à 4-5 ans, voire 6 ans le tennis. Et après, des entraînements donc, pour les plus jeunes et les entraînements adultes aussi.
Tu t'es intéressé, toi, Patrick, un peu dans tes différents articles au tennis en Lozère ou pas ?
Pas spécialement. Bon, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé ici, bon, j'avais complètement arrêté le sport, et donc j'ai pas eu cette envie de reprendre ma raquette et donc ce qui fait que j'ai jamais été licencié au club de tennis de Mende. Bon, après, il se trouve que bon, j'ai rencontré et donc je me suis laissé entraîner sur le côté badminton, donc. Bon, voilà, j'ai jamais mis j'ai mis les pieds sur le terrain, mais j'ai jamais joué au tennis sur les installations du club de Mende. Mais bon, voilà, c'est un club qui a aussi un gros tournoi, qui organise aussi un tournoi important où on peut retrouver là des joueurs français, bon, qui justement écument tous les tournois sur le territoire français. Et donc ça fait des matchs intéressants avec certains qui sont classés parmi les 20 ou 30 meilleurs joueurs en France.
Luc, tu t'intéressais, toi, sur Midi Libre, où tu t'intéresses aux résultats un peu du tennis
De temps en temps, oui, on reçoit les résultats des différentes équipes. On essaye de les suivre un peu. J'avoue que c'est un peu compliqué parfois avec les clubs de tennis. Qui est pas le club qui communique le plus de tous les clubs mendois. Je sais que ouais, ça a été, ils ont eu une période un peu compliquée puisqu'ils ont changé d'entraîneur. Ça a été un peu compliqué pour trouver un successeur depuis quelques années pour trouver un entraîneur
au
sein du club. Ouais, une stabilité.
Nouvel entraîneur Aurore là.
Oui.
Qui s'appelle
Robin Villette.
Ah, c'est Robin Villette, voilà, alors qui entraîne.
Voilà, okay. mais je sais que c'est un club qui est quand même assez dynamique et qui a effectivement beaucoup de licenciés au-delà de l'aspect compétition équipe fédérale etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui fréquentent les cours de tennis à Mende, que ce soit en extérieur ou le court couvert.
Surtout court couvert, ouais. Ça, c'est important d'avoir ça. Vous organisez une sortie, d'ailleurs, j'ai vu à l'Open Sud de France. Non, c'est annulé ?
Non, non, il n'y a pas de sortie de prévue cette année.
Ah, bravo. J'allais m'y inscrire, moi. Le joueur le mieux classé ou la joueuse, c'est à peu près quel niveau ?
C'est donc ce qu'on appelle la deuxième série. Pour les gens qui connaissent, c'est... Ça commence à être un très bon niveau. Chez les filles, on a une deuxième série. Caroline, qui joue à Marvejols, d'ailleurs, qui est 4-6, qui est une ancienne négative. Pour les connaisseurs qui connaissent un peu le tennis, quand on commence à être dans des classements comme ça, Voilà, c'est vraiment une très très bonne joueuse. Après, chez les hommes aussi, c'est deuxième série. Voilà.
Laurentier est négatif, mais jusqu'à 16h de l'après-midi. À partir de 16h, il est positif. Deuxième série, c'est bien, Patrick ?
Ben oui, forcément. Donc là, elle peut même jouer contre toi, mais avec le pied dans le plâtre. Non, c'est-à-dire de la main gauche, avec le bras droit dans le dos et avec le pied dans le plâtre. Mais je pense que même, elle peut te gagner.
Je ne vais pas vous laisser vous moquer de moi. J'ai été première série.
Oh.
Vous saviez ça ? Non, j'en parlerai une autre fois.
Au bowling ?
Au bowling.
Au bowling, ouais.
Ça existe, première série
sur
au moins ?
Non.
Aurore ?
Oui, ça existe.
Ouais, ça existe.
Non, mais deuxième série, pour devenir sérieux, c'est une sacrée performance.
Ouais.
En fait, pour donner un ordre d'idée, 15, c'est le plus mauvais classement de deuxième série et c'est le niveau qu'il faut pour être entraîneur, en fait.
D'accord.
C'est ouais. Clair, non ?
C'est clair.
C'est clair, hein.
Enfin, d'un côté, parce que dans les autres sports, tu peux être entraîneur en étant nul. Hein, tu
vois. Oui, ça, c'est oui,
tennis, il y a un minimum pour passer, pour passer le diplôme.
Le diplôme,
il faut
ouais.
Minimum être classé 15.
Merci, Aurore. On va continuer avec le tennis, avec l'actualité nationale et internationale qui a été chargée ce week-end, avec une grande surprise chez les messieurs à l'Open d'Australie. Djokovic qui a encore gagné. On va faire une petite pause musicale avant avec les Eagles of the Death Metal. Reparti tennis, l'Open d'Australie, donc Djokovic qui classe Murray 6-1, 7-5, 7-6 en finale à Melbourne. Heureusement qu'il y a une Allemande inconnue pour Luc, mais qui est connue pour nous dans le monde du tennis, qui a remporté le tournoi féminin. Ça commence à être un peu lassant quand même, Aurore, ces finales messieurs où tu as ou Murray Djokovic ou Djokovic Federer ou Djokovic contre Djokovic et à la fin c'est Djokovic qui gagne. Avant c'était Nadal qui gagnait tout, avant c'était Federer, enfin il n'y a pas de surprise.
C'est vrai que ce qui est le plus lassant, c'est surtout que ce soit Djokovic qui gagne à la fin, parce qu'en général, c'est jamais le même adversaire. Mais,
Oui, parce que quand c'était Federer qui gagnait, tu disais pas la même chose.
Non, c'est vrai que je suis. Étant assez fan de Federer, c'est vrai que j'ai un peu de mal à être objective, mais c'est vrai que non, après, on peut pas reprocher à un joueur de bien jouer et de tout gagner. Donc voilà, c'est sûr qu'après, c'est aux joueurs en face d'essayer de se surpasser, d'essayer de faire au mieux et de s'inspirer comme de Stan Wawrinka. En finale à Roland-Garros, où on le voyait, on pensait tous qu'ils allaient se faire écraser par Djokovic et qu'il allait gagner son premier Roland-Garros. Et finalement, il a tapé plus fort que Djokovic et il a fini par remporter le tournoi.
Moi, c'est un peu particulier quand même Roland-Garros. En plus, c'est vrai que Les meilleurs ont toujours eu du mal à confirmer, à s'imposer sur.
Ça a été le cas pour Pete Sampras qui a jamais réussi à gagner, Federer qui a eu.
Ah, je l'aimais bien.
Qui a eu beaucoup de mal à, qui a eu beaucoup de mal à gagner, qui a gagné en 2009 l'année où.
Ah ouais.
Où Nadal avait perdu et c'est vrai que c'est toujours assez particulier pour tous les meilleurs joueurs Roland Garros.
Service volé, c'est moi.
C'est la particularité de la terre battue.
Mais toi, tu sers à deux mains ou
Non.
Tu sers à la cuillère.
Non, le revers. C'est le revers
à deux mains.
Ah oui. Non plus une main moi.
Comme Moresmo.
Patrick.
Non mais c'est vrai que le problème du tennis c'est que bon il y a quelques saisons c'était vraiment très intéressant parce que tu avais quand même quatre énormes joueurs donc Djokovic, Federer, Nadal et je sais plus qui. Donc voilà. Et
Patrick Biancone.
Donc tu pouvais quand même Nadal a perdu au premier tour. Bon, Federer commence à faire son âge, même s'il est allé en demi-finale, et donc ben, il reste plus que Djokovic. Et Murray, ben, le quatrième, c'était Murray, bien évidemment. Et donc, bon, ben, voilà, Djokovic, c'est vrai, met une domination écrasante. Donc, tu sais ce qu'il te faut faire pour continuer à gagner, pas de gluten.
Mais des paris, il faut faire des paris.
Mais si tu reviens un peu avant, t'avais Agassi, t'avais Lendl, t'avais Chang, t'avais à la limite. J'ai l'impression que t'avais McEnroe qui était encore
Borg,
là.
T'avais Borg, t'avais Connors, bon.
Il y avait plus de personnes qui étaient en possibilité de gagner. Tu avais Noah. J'ai l'impression que maintenant, le niveau est plus le même.
C'est vrai qu'il y a un gros écart entre les meilleurs et ceux qui suivent au moins. C'est vrai qu'un top 10, bon, mais tu vois bien que Tsonga, il est dans le top 10, même, parfois même il a été dans le top 5, mais tu le sens pas, tu sens pas qu'il peut vraiment franchir ce pas. Et alors il arrive à un huitième, en quart, bon, parfois en demi, et puis bon, au bout du compte, et ben, il tombe contre un des quatre. Alors parfois il en bat un, mais bon, après s'il faut qu'il en batte deux, alors si en finale il faut qu'il batte le troisième, bon, mais c'est sûr que c'est impossible pour lui. Et donc ben, le problème de Tsonga, il se retrouve pour tout un tas de joueurs aussi, ben, voilà, qui sont aux portes, qui sont dans le top 10, mais qui sont vraiment en retrait par rapport à ces quatre joueurs.
Aurore, quand est-ce qu'on va gagner un grand chelem, la France ?
Là, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué, surtout quand on voit le niveau des 4-5 meilleurs et du niveau de Djokovic aujourd'hui. Aujourd'hui, il a pas vraiment d'adversaire à sa taille. Donc, effectivement, je pense qu'il faudrait que les planètes soient bien alignées, on va dire, pour que ça puisse marcher et pas enchaîner de deux ou trois gros matchs.
Et qu'il ait une bonne gastro et une angine.
Voilà, non, mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est que peut-être des garçons comme Nadal et Djokovic, tu te rends compte qu'au niveau, et là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Aurore, au niveau mental, c'est des monstres
c'est
à ce niveau-là.
C'est du niveau de Laurent Julien, en fait.
C'est quasiment, parce que le niveau de Laurent Julien au foot, niveau mental, est quand même très 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 au-dessus. Voilà, tu te rends compte que ces gars-là sont de véritables machines et mentalement ils craquent très très rarement. C'est à mon avis ce qui fait défaut aux joueurs français, c'est aussi en grande partie le mental. Quand on voit un garçon comme Richard Gasquet qui est bourré de talent, mais qui mentalement ça
il est bourré
pas.
De blessures surtout.
Je pense qu'il y a une partie du mental aussi dans ses blessures. Donc voilà, je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est chez les très grands joueurs, c'est ça.
Non mais c'est vrai que le problème des joueurs français c'est qu'ils ont toujours quelque chose. Bon, tu passes pas un tournoi, alors bon voilà, Simon il a mal au dos, Tsonga il a mal au genou, mon fils, voilà, il a aussi un truc, Gasquet n'en parlons pas, bon lui il a mal de partout. Donc c'est vrai que c'est à force c'est lassant quoi, mais c'est même voilà bon. Et donc c'est vrai que
c'est typiquement français, ouais. On a toujours quelque chose qui va pas sur les grands rendez-vous, on n'arrive jamais.
C'est peut-être une excuse à 100%. Qu'on trouve.
Et je souhaite bon courage à Noah parce que bon vraiment pour entraîner cette bande de joueurs, il faut vraiment en vouloir et être motivé parce que bon là ça il doit se passer des trucs et il doit entendre des trucs, ça doit être totalement hallucinant.
Il est adepte de la médecine douce, Noah. Je pense que
il va le falloir.
Ouais, c'est quoi cette histoire de Guadeloupe? Aurore, là, mon fils qui dit non, finalement je veux pas y aller.
Alors il a pas
pareil,
dit, il a pas dit exactement
caprices,
je veux pas y
c'est
aller.
Caprices, non
il a un peu jeté le pavé dans la mare, comme on dit, en disant qu'en fait 80% des joueurs n'étaient pas d'accord avec le choix d'aller jouer en Guadeloupe. Ce qui est complètement contradictoire à ce que disait Noah au moment de l'annonce du choix du lieu de la rencontre. Donc ils ont dit qu'ils régleraient ça en interne, mais effectivement c'était par rapport au calendrier où c'était un peu compliqué d'aller faire autant d'avions, autant de...
Mais il a raison en plus le joueur. Hein. Pour faire plaisir, il y a 8 licenciés là-bas en Guadeloupe.
Tu vas avoir des coups de fil.
Non,
Tu peux t'excuser auprès de la Guadeloupe. Non, mais moi ça me fait marrer, c'est des mecs qui passent quand même leur vie et leur année dans des avions à aller de tournoi en tournoi. Mec, ils étaient en Australie, après ils vont en Angleterre, ils vont aux États-Unis, ils vont en Amérique du Sud. Les mecs, ils passent leur vie dans les avions. Alors là, ils vont dire oh là, ça tombe mal au niveau des trucs. Noah a choisi a priori avec l'accord des joueurs. De ce qu'il dit, la terre battue, parce qu'il estime lui aussi, et là aussi il y a une réflexion, il estime que la terre battue c'est la meilleure surface pour pouvoir battre les Canadiens qui sont
la terre battue en extérieur.
La terre battue en extérieur, tout à fait. Effectivement, à Roland Garros, la terre battue en extérieur au mois de février-mars, c'est compliqué.
C'est plus la terre battue là, hein, c'est gelé.
Non, mais voilà. Donc du coup,
les Canadiens sont avantagés du coup.
Ouais, ils jouent avec des patins.
Ils s'entraînent avec des grizzlies les Canadiens. J'ai vu un reportage. Non mais
il y a un argument de mon fils qui est à mon avis quand même recevable, c'est que si tu avais joué en Europe, pour les mêmes raisons de transport, alors après on peut dire oui bon voilà, mais en tout cas Raonic n'aurait pas joué pour le Canada si tu avais organisé la rencontre en Europe, et donc là puisque tu l'organises en Guadeloupe, donc très près du Canada et enfin du continent américain, puisqu'il a prévu de jouer sur le continent américain juste avant, donc Raonic sera contre la France, alors que sans Raonic t'es sûr de gagner, parce que bon l'écart avec les autres est tellement impressionnant, donc bon voilà. Raonic... donc là, à mon avis c'est une erreur tactique de Noah de pas avoir fait ce match en Europe.
Raonic a quand même dit que c'était pas vrai, que quoi qu'il arrive il aurait joué. En même temps, je pense que comme tout bon tennisman qui se respecte, Raonic doit avoir un appart à Monaco ou en Suisse.
Il a dit ça parce que mon fils a vendu la mèche, mais bon, si tu reprends les coupures de presse au moment du tirage au sort, dès le départ, c'était marqué par tous les spécialistes du tennis que si tu jouais la rencontre en Europe, Raonic ne jouerait pas, alors pas parce qu'il n'a pas d'appartement à Monaco, mais parce qu'il a prévu de jouer les semaines précédentes sur le continent américain. Et donc lui aussi veut s'épargner un transfert en avion de l'Amérique à l'Europe.
Il faut faire plaisir aux Guadeloupéens, hein, moi je pense.
Oui, non, mais ça après non, voilà, au niveau pas philosophique, mais si un peu. Bon là, ça se justifie totalement. Mais bon, au niveau sportif, à mon avis, Noah a fait une erreur de se rapprocher du Canada pour cette rencontre. Il aurait fallu organiser un autre match à un autre moment.
Ok, allez, on passe cette. On n'aura jamais autant parlé de tennis qu'avec une invitée qui fait du tennis. Hein. Ouais. C'est bien. Tu reviendras pour Roland Garros un peu pour faire des chroniques.
Il n'y sera pas, non, moi, lui.
Ah, c'est un... oui, non.
Non, c'est au mois de mai.
C'est au mois de mai.
Mai-juin. C'est nouveau, ça.
Juillet, c'est le Tour de France.
Ah, c'est le Tour de France, c'est ça.
Et ce n'est pas des raquettes, c'est des vélos.
Ouais. Des vélos moteurs.
Allez, rapide, on va reparler de ce cas. Ce n'était pas mon vélo, mais celui d'un ami identique au mien. Tricherie mécanique, premier cas découvert au Mondiaux de cyclocross. C'est le premier cas découvert, mais c'est certainement pas le premier qui a existé, Luc.
Je pense que les cyclistes sont quand même les meilleurs champions du monde pour trouver des excuses bidons.
C'est vrai que c'est pas
on
mal.
On se rappelle de Richard Virenque.
Non, mais attends, mais tu parles de Richard Virenque hier à la télévision. Donc, le plus gros dopé cycliste français de tous les temps était en train sur TF1, était en pleine explication que c'était scandaleux ce dopage mécanique,
mécanique.
Sur le vélo. Donc, il avait un vélo, il expliquait où cette jeune belge avait mis son truc. Donc, voilà, tu prenais une gourde vide, tu mettais un truc dedans, ça correspondait dans le cadre du vélo. Donc c'était totalement hallucinant de voir se doper qui devrait être rayé de tous les palmarès et qui devrait ne plus apparaître sur aucune télévision française, donner des leçons de dopage. C'était totalement fabuleux.
Il paraît que ça fabuleux. Lance Armstrong a aimé sur sa page Facebook. Lance Armstrong a liké.
Cela dit, t'as Laurent Jalabert qui commente le Tour de France chaque été.
Il devrait être au même niveau que Richard Virenque, que je suis tout à fait d'accord avec toi, même si lui n'a jamais avoué être dopé, à différence de Virenque.
Absolument, ouais.
Non, mais juste pour revenir, c'est qu'une nouvelle fois, ça jette un peu l'ombre sur
moi, le, je pense que sur c'est le, pas son vélo.
Sur en le fait, cyclisme qui n'a pas vraiment besoin de ça. Il y avait déjà eu les histoires de dopage, le dopage physiologique, là, le dopage technologique, mécanique, avec moteurs dans les vélos. J'ai peur que la crédibilité du cyclisme en prenne encore un coup, ce qui restait en prenne un sacré coup.
Je crois qu'elle a dit qu'elle s'était gourée de compète en fait, parce qu'elle voulait faire l'enduro du Touquet ce week-end.
Ouais.
Et elle s'est plantée, c'est tout quoi.
Ouais, en même temps, dans le cyclisme, je vous rappelle, dans les années 50, je crois, à l'époque des Louison Bobet, etc., où en haut d'école, ils prenaient des bidons qui étaient plombés, justement, pour avoir plus de poids sur le vélo et pour aller plus vite dans les descentes. Mais
ils mettaient du pinard dans les gourdes.
Non, mais la triche a toujours existé au niveau
après,
du cyclisme,
voilà, tu as raison. Est-ce que c'est de la triche ou pas d'avoir un bidon plombé pour aller. Bon, là, au niveau du moteur, c'est clairement de la triche. Mais c'est vrai que l'ingéniosité dans le cyclisme a toujours existé, très prolifique. Ouais.
C'est vrai, tu peux le dire.
C'est vrai.
Et après, quand on parle de la popularité du cyclisme, ben, c'était entre guillemets que du cyclo-cross. Mais bon, ça s'est passé en Belgique, 50 000 spectateurs payants, quoi. Donc, bon, voilà, des gens surexcités, un peu un circuit de Formule 1, c'est-à-dire tu pouvais suivre les... Bon, c'est bien fait, Après, c'est vrai que c'est très restreint au niveau des participants, et c'est quasiment toujours les mêmes qui gagnent. Mais il y a un public dans certains contrées, en particulier dans les Flandres belges. Et donc, bon, voilà, énorme succès populaire pour cette compétition de cyclo-cross.
Et le comble de cette histoire belge, c'est que la jeune fille a abandonné pour ennui mécanique. Quand même.
Et oui, ça, le vélo était cassé.
Ouais. Oui, puis donc, on rappellera que c'était les championnats espoir. C'était pas les élites. Donc, ça veut dire que...
Mais ils testent d'abord chez les espoirs pour voir si ça marche.
Chez les espoirs, ça montre quand même que... Bon, il y a... Depuis très jeune, le dopage et ce genre de choses atteignent... Le cyclisme.
Allez, vite, il reste une minute. On va malheureusement pas parler de l'effet Hans. On y reviendra la prochaine fois.
Non, mais tu sais que l'effet Hans, demain, t'en as plus. Hein, parce que comme on va gagner à la Mousson, t'es cuit.
Alors là, mon cher ami, je vais prendre un pari avec toi si tu veux, que les chefs de l'OM vont se faire défoncer de manière.
On a failli en tomber, c'est bon.
C'est justement pour ça.
L'effet Hans, il pourrait faire aussi comme l'effet Courbis, puisque la semaine dernière, Rennes gagne, cette semaine, ils prennent une tôle à Bordeaux.
À Bordeaux,
c'est la seule équipe à prendre une tôle.
C'est très
fort.
Donc
les effets des coachs, bon.
Allez, tu vas me faire plaisir, tu vas me parier sur Marseille-Paris, tiens. Ton club de cœur, là, vas-y. Combien vont gagner contre Paris dimanche ?
Non, je vais dire Paris qui va gagner 2-0. Marseille reste sur 9 défaites ou 9 matchs sans victoire à domicile. Paris gagne tout, même avec une équipe en bois.
Alors, toi, tu retournes ta veste quand tu veux.
Non, il faut être honnête.
Pendant la guerre, t'aurais pas été comme mec, je pense. Luc.
Paris 3-1.
3-1, non, mais Marseille qui marque. Mais
non, c'est quoi, t'as vu? Je vous rappelle qu'ils ont Kevin Trapp dans les cages.
Ah,
il a été bon hier.
Ouais, faut savoir si. Est-ce que la charnière défensive parisienne va être remise ou pas
À mon avis, non, donc tu peux parier pour Marseille.
Pas but adverse, que tu veux faire.
Bon, allez, moi je dis 2-1 pour Paris alors.
Ok.
2-1 pour Marseille et un doublé de Thauvin.
C'est énorme. Allez, Aurore, remonte-moi ce niveau là un peu.
Paris 2-0.
2-0. Ah,
comme moi.
Comme
Laurent. Vous avez de la chance qu'il y ait ce match de milieu de semaine qui permet à Bachaoui de purger une suspension. Hein.
Tout à fait.
Allez, 5-0 Paris. Bim. Alors, la grosse crise, parce qu'après la défaite contre Montpellier mardi et le 5-0 contre Paris, ça va être la crise à l'OM.
Je vous le maintiens.
Eddy Mitchell à la trappe.
Ouais, alors là, complètement. Ok, merci les amis, merci Aurore d'être venu, pas merci, Michel, parce que je te dis Michel.
Merci Michel.
Merci Michel d'être venu à l'OM. Merci Aurore, et à bientôt pour nous parler de tennis.
À bientôt.
Hein, on te prendra comme spécialiste de tennis.
Pas de souci.
Parce qu'on a des spécialistes dans tous les sports, mis à part Laurent qui est un peu notre couteau suisse. Mais on n'en a pas de tennis. Ciao les amis, à mardi prochain.
Salut.
À lundi prochain. Et demain, allez la paillade.
L'Esprit John au couloir en numéro 2, allez c'est parti pour l'Esprit John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet, je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du tas de apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Oui mon petit bonhomme. Bravo. Bravo.
On est tout seul.
FM, la radio pop rock de la Lozère.
La radio pop rock de la Lozère.